Abattage, une émission contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle.
À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire.
En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu.
Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h.
Sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage
contre toutes les cages.
Bonsoir, vous êtes bien en direct sur Carapatage, l'émission contre toutes les cages, contre tous les enfermements, contre toutes les prisons. Ce soir, c'est la 42e émission et on n'est que deux dans le studio. C'est un peu la dèche pour le début de l'année, mais ce sera pas comme ça toute l'année. Alors moi, c'est Pile.
Moi, c'est Pitou. Bonsoir.
Alors, on va faire quelques brèves et ensuite, on vous parlera de la situation de Alfredo Cospito dont on a déjà parlé dans cette émission. On fera une mise à jour. On parlera aussi un petit peu de ce qui se passe en solidarité avec lui, avec toutes les personnes qui sont dans le régime de 41 bis en Italie. Et on vous passera aussi une émission qui a été enregistrée à Marseille, qui explique un peu plus la situation dans les régimes d'isolement 41 bis. Et ensuite, on vous passera une petite chronique qu'on nous a envoyée. Voilà, alors je vais commencer par les brèves.
Ouais, et puis peut-être préciser que, comme d'habitude, c'est possible de nous joindre pendant l'émission au numéro suivant, le 01 43 71 89 40. Et puis, toutes les émissions sont réécoutables sur le blog carapatage.noblogs.org.
Oui, et vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, @carapatage. Et on est avec vous donner toutes nos infos. Vous pouvez aussi nous écrire par mail à carapatage@riseup.net. Mais aussi, on a une adresse postale. Carapatage, 4 Villa Stendhal, 75020, Paris. Donc je voulais commencer par vous parler de ce qui se passe à la prison de Rennes. La prison du centre-ville qui enferme les femmes. on rigole pas. Les femmes et les personnes qui sont en semi-liberté. Et donc depuis novembre, vers le 20 novembre, les prisonniers et prisonnières n'ont plus accès à l'eau. Et donc des prisonniers en semi-liberté ont fait sortir plusieurs communiqués pour parler de ce qui se passe à l'intérieur. Donc il y a des distributions de 2 bouteilles d'eau par jour, mais les douches du coup sont très rares et ces 2 bouteilles c'est pour faire la vaisselle, pour manger et pour boire tout simplement quoi. Sur le blog on mettra un peu les liens vers le site où il y a les communiqués qu'ils ont écrits. Et voilà, ça c'était la situation au bout d'un mois après au 21 décembre, donc il n'y avait toujours pas l'accès à l'eau courante. A priori, ce serait une bactérie qui aurait dans l'eau. Mais du coup, voilà, on imagine que comme d'hab, vu qu'il s'agit de prisonniers-prisonnières, l'administration et l'État n'est pas pressé de rétablir l'eau. Mais on espère quand même que la situation s'est arrangée depuis fin décembre. Et voilà, s'il y a des personnes qui ont des nouvelles, si nous on en trouve, on essaiera de tenir au courant dans l'émission.
Ouais, un autre truc qu'a fait l'actualité récemment, il y a eu plus 2 évasions qu'on a relevées un peu. Il y a eu une évasion dans un SAS à Aix. Alors un SAS, c'est une structure d'accompagnement vers la sortie. C'est un des nouveaux dispositifs qui a été mis en place récemment par l'État pour, encore plus diversifier les formes d'enfermement en France et améliorer ce qu'on appelle la gradation des peines, à savoir un peu un système de carottes et de bâtons, quoi. Donc, qui permet toujours soit d'accéder à un régime plus souple, ou si t'es pas, assez bien discipliné en prison, retomber dans un régime plus dur. Bref, eh ben, en tout cas, dans l'une de ces nouvelles structures, donc celle située à Aix, il y a eu une évasion là, le 21 décembre dernier, vers 22h30, où quelqu'un a réussi à s'en échapper en fabriquant lui-même une corde pour descendre de sa cellule, donc pour le coup une cellule sans barreaux du premier étage. Donc c'est peut-être ça l'un des avantages de ce genre de nouvelle structure, c'est que les évasions peuvent être plus simples. En tout cas, le 27 décembre, dans la presse, on pouvait voir que la personne n'avait toujours pas été retrouvée par les forces de l'ordre. Du coup, on espère qu'elle est toujours en liberté.
Et moi, je voulais vous parler d'une évasion qui a eu lieu à Milan le 24 décembre, dans un centre pénitentiaire pour mineurs. Alors, il y a une personne qui a été rattrapée directement et depuis 29 décembre, les 7 avaient été rattrapés ou se sont rendus. En fait, il y avait des travaux dans le centre pénitentiaire et les prisonniers ont fait tomber les murs voilà, qui, sur les échafaudages et ont réussi à s'évader. Et après leur évasion, il y a eu un incendie aussi à l'intérieur en solidarité avec leur évasion. J'espère que même si leur évasion était de courte durée, j'espère qu'elle aura donné du baume au cœur quand même.
En tout cas, cette évasion, elle a fait grand bruit, je crois, en Italie. Et il y a même eu un article dans Le Monde en France qui en parle et qui je crois, enfin bon, faut le relire, mais qui parle de à quel point l'administration pénitentiaire italienne remet un peu en question la sûreté de ces établissements.
Oui, alors on espère qu'ils ne tireront pas les leçons. L'administration ne tirera pas les leçons de cette évasion.
Ouais. En tout cas, des prisons, il y en a toujours de nouvelles en construction, malheureusement. Et en France, on sait que depuis quelques années, il y a un plan prison qui est en cours pour construire 15 nouvelles places de prison. D'ici 2027, c'est ça ? Je ne me trompe pas ? Bon, il faudra peut-être vérifier. Ouais. En tout cas, participe à ce plan prison plein d'entreprises. Parmi les plus connus, on retrouve Vinci, Bouygues, mais aussi Eiffage. Et dernièrement, à Toulouse, le siège de l'entreprise Eiffage a été un peu attaqué avec des vitres cassées et des tags. C'était dans la nuit du 21 décembre. Il y a eu un communiqué qui a été publié sur le site IATA. Voilà. Et peut-être pour donner un peu plus de détails sur la participation des phages à l'enfermement et à la construction des prisons, je voulais rappeler que donc en 2006... Eiffage est impliqué dans la construction de nombreuses prisons. Parmi lesquels on peut trouver des prisons dans lesquelles l'entreprise gère également la maintenance. Du coup, signe des contrats de gestion avec l'État sur une trentaine d'années pour assurer, en partenariat avec l'État, la gestion et la maintenance de l'établissement. Donc on trouve par exemple les tôles de Nancy, de Lyon-Corba, celle de Béziers, et aussi celles de Roanne qui sont gérées donc par l'entreprise en partenariat avec l'État et avec d'autres entreprises d'entretien et de maintenance, bien sûr. Alors, une petite anecdote marrante que je voulais rappeler. Avant l'ouverture de la prison de Nancy, donc en 2009-2010, qui avait été construite par Eiffage, les ordinateurs portables donc d'Eiffage qui contenaient les plans et les codes secrets avaient été volés. Et à l'époque, l'entreprise avait notamment été obligée de déménager. Voilà pour la petite anecdote un peu rigolote. Sinon, plus récemment, Eiffage est impliqué aussi dans la reconstruction d'une partie de la prison des Baumettes à Marseille. Voilà, pour donner un exemple supplémentaire. Sans transition, à moins que tu aies quelque chose à rajouter.
Non.
Très bien. Sans transition, un autre petit truc qui a fait l'actualité, enfin qui a fait l'actualité sur Paris Lutte Info, peut-être ça a fait l'actualité. En tout cas, non, juste on avait envie de rappeler que, comme à peu près chaque année, il y a des groupes de gens qui ont envie de montrer un peu de solidarité aux prisonniers, prisonnières depuis l'extérieur en tirant des feux d'artifice à l'occasion du jour de l'an. Et voilà, et cette année en Ile-de-France, Il y a des feux qui ont été tirés devant la prison de la Santé, les CRA de Vincennes et du Ménil-Amelot, les maisons d'arrêt de Villepinte et de Bois d'Arcy et la maison d'arrêt pour femmes de Versailles. Et voilà, et quand c'était possible, il y a eu des moments un peu d'échange en criant leur solidarité, tout simplement. Il y a eu aussi des feux d'artifice qui ont été tirés devant le CRA de Lyon, hein, pour ne pas être trop parisiano-centré. Et puis, il y en a peut-être eu ailleurs, mais on n'a pas trop l'info, je crois.
On imagine qu'il y en a eu ailleurs.
On espère. Et bien, peut-être avant de se lancer plus la retransmission de l'émission sur le régime 41 bis et la grève de la faim d'Alfredo Cospito, on va écouter une petite chanson, ou plus précisément une tarentelle revisitée, donc qui s'appelle Taranta de Ludovico Einaudi.
êtes toujours dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages. On va vous parler de la situation d'Alfredo Cospito. Donc je vais faire une petite mise à jour. Et puis ensuite, on écoutera une émission du 6 novembre dernier de La Courte Échelle qui raconte bien ce qu'est le 41 bis et le 41 bis et un peu pourquoi il s'est mis en grève de la faim, etc. Donc Alfredo Cospito, il est en grève depuis le 20 octobre et il en est aujourd'hui à son 60e jour de grève de la faim. Il a annoncé qu'il irait au bout de sa grève de la faim et on sait qu'à ce stade d'une grève de la faim, le corps se trouve quand même en grande difficulté. Il a perdu là 31 kilos à 70 jours de grève de la faim, mais il sortait quand même en promenade. Il y a eu au début, quand il s'est mis en grève de la faim, d'autres prisonnières qui se sont mis en grève de la faim en Italie, mais qui ont depuis arrêté. Et il y a une autre personne, Anna, qui a été condamnée aussi dans l'affaire Skriptamanen, comme lui. Elle a arrêté sa grève de la faim. Et il y a Ivan qui est détenu en prison à Villepinte, qui a un temps arrêté et a repris sa grève de la faim, alors que l'audience qui a eu lieu début décembre pour la sortie ou non de Alfredo Cospito du 41 bis, il a été refusé. Donc ce refus de le sortir du 41 bis qui signe son arrêt de mort quoi par l'État italien. Donc Ivan a depuis repris sa grève de la faim à ce moment-là. En janvier, il y a quand même une audience qui l'attend pour le réexamen de sa condamnation dans l'affaire Skriptamanen, où il a été condamné à perpétuité. En attendant, depuis le début de sa grève de la faim et contre le 41 bis, face à cette attaque de l'État envers lui, mais aussi envers tous les anarchistes et plus généralement envers tout le mouvement social. Il y a un climat assez répressif en Italie, mais qui date pas, qui peut-être est en train de s'accentuer avec le nouveau gouvernement, mais qui ne date pas du tout de ce nouveau gouvernement, qui existe depuis plusieurs années, quoi. Et donc là, il y a une assez grosse mobilisation, quoi, qui existe devant les prisons, dans la rue, allant des perturbations, des attaques. Et cette mobilisation s'intensifie. En Italie, il y a pas mal de rassemblements qui ont lieu chaque semaine dans plein de villes. Là, par exemple, il y en a un par jour en Italie dans la prochaine semaine. En France, il y a un petit peu moins de choses. Mais il y a une discussion à Toulouse qui va un peu raconter ce que c'est le 41 bis et la situation de sa grève de la faim, là. Ce sera le 6 janvier au local Camarade. Et pour donner un peu des exemples de ce qui se passe, des exemples un peu récents, le 31 janvier, dans la ville de Rome, il y a eu un rassemblement avec une centaine de personnes qui, à la fin, ont toutes été un rassemblement et une manifestation. Elles ont toutes été nassées par la police et aussi le même jour, à Rome aussi, il y a eu de nombreuses camionnettes d'un loueur de véhicules, Hertz, qu'on connaît et qui collabore dans le texte de revendication. C'est écrit qu'il collabore avec la police grecque. Et voilà, il y a aussi ce jour-là à Rome, une armoire de fibre optique qui a brûlé. Et voilà, ça c'est un exemple d'une journée dans une ville. Mais il y a eu de nombreuses attaques de banques en France, en Italie, en Grèce, d'incendies de voitures de matons, par exemple à Rome aussi fin décembre. Et voilà un peu pour donner différentes choses de solidarité, pour suivre un peu ce qui se passe et avoir un peu des nouvelles. Il y a un blog qui s'appelle Lutter contre le 41 bis.noblogs.org. On le mettra en lien sur notre propre blog. Et on va mettre aussi en lien un texte d'appel à la mobilisation internationale. Et on essaiera de donner des nouvelles dans les prochaines émissions. Et maintenant, on va pouvoir écouter l'émission de La Courte Échelle. Mais avant, on mettra un petit peu de musique. Ah non, on va pas mettre de musique, on mettra directement l'émission de la courte échelle. Donc ça dure une demi-heure et puis on se retrouve après cette émission. Bonne écoute.
Et pour commencer cette émission, on va lire une lettre.
Donc c'est une lettre de Federico Chiesa. L'impression du bâtiment était mortelle, car elle donnait ce sentiment d'oppression, de claustrophobie. En 41 bis, la torture était à la fois physique et psychologique. Il te dévastait moralement afin de violer ta dignité, piétiner tes sentiments, annihiler ta personnalité et te réduire à un végétal. Quand ils ont révoqué mon 41 bis, ils m'ont emmené dans une section AS2, où je suis resté 2 jours.
Ce qui m'est resté, c'est le temps passé à la fenêtre, à admirer la vue depuis le 2e étage. Des sentiments difficiles à expliquer, mais profonds et très ressentis. Dans ces moments, 1000 pensées ont surgi dans mon esprit, la plus récurrente étant la conversation avec la famille, le fait de pouvoir les embrasser à nouveau après 11 ans. J'ai imaginé ce moment, le vivant comme s'il était réel. Je n'oublierai jamais ces 11 années passées sous le régime de torture du 41 bis. Mais surtout, les 11 mois passés dans les cachots de Sassari. Une honte pour la civilisation italienne, mais aussi pour l'Union européenne. Un pays qui voudrait progresser en utilisant la cruauté et la torture contre ses citoyens n'a pas beaucoup d'avenir. Federico Chiesa.
Merci pour cette lecture. Donc, comme vous l'avez compris, on va parler des prisons italiennes aujourd'hui et particulièrement du régime 41 bis. Donc un régime particulièrement hardcore dans lequel était justement Federico Chiesa, dont on a lu la lettre maintenant. C'est une lettre de septembre 2016. Et c'est quelqu'un qui était donc en régime 41 bis pendant 11 ans. Il est toujours en tôle aujourd'hui. Et il a notamment été 11 mois au régime 41 bis à Sassari. On va reparler de cette prison justement aujourd'hui.
Et pour commencer, on va parler d'une grève de faim. Est-ce que tu peux parler plus de cette grève?
Oui, alors Alfredo... Bonsoir tout le monde. Alfredo Cospito, c'est un anarchiste italien qui est en grève de la faim depuis le 20 octobre dernier. Donc là, ça fait aujourd'hui exactement un mois. Il est en grève de la faim contre le 41 bis et la perpétuité incompréhensible. C'est aussi incompréhensible.
C'est aussi incompréhensible, on est d'accord.
Et je peux juste demander, c'est quoi le 41 bis?
Alors, on va expliquer longuement ce que c'est que le 41 bis par la suite. Le 41 bis, c'est un régime d'isolement... qu'on appelle en italien, en Italie, la prison dure. Je vais expliquer un peu plus tard les différentes formes d'isolement qui peuvent exister en Italie. Celle-là, c'en est une parmi d'autres. En tout cas, là, il est en lutte, donc, en grève de la faim, contre ce régime d'isolement. Il faut savoir que c'est pas le seul prisonnier en ce moment anarchiste qui est en grève de la faim.
Tu peux rappeler depuis combien de temps il est en grève de la faim?
Ça fait donc un mois aujourd'hui, exactement, oui.
Ok.
Donc, il faut donc rappeler qu'effectivement, c'est pas le seul prisonnier anarchiste qui est actuellement en grève de la faim. Il y a aussi Anna et Juan, qui sont tous les deux en Italie et qui sont entrés en grève de la faim en solidarité à la suite de Alfredo quelques jours après. Et il y a aussi Ivan, qui est prisonnier en France et qui l'a rejoint quelques jours après le début de la grève de la faim d'Alfredo. Alors, Alfredo, il est en prison depuis une dizaine d'années maintenant. Initialement, il a été arrêté suite à la jambisation d'un ponte du nucléaire italien qui s'appelle Adinolfi. Et ça depuis donc 2012. Et il a été ensuite réarrêté alors qu'il était encore en détention pour l'opération Scriptamanent en septembre 2016. En septembre 2016, il y a eu 7 arrestations, dont la sienne donc, pour une série d'attaques explosives et pour associations subversives à visée terroriste, pour lesquels Alfredo et Anna, en particulier Anna, qui est donc a rejoint la grève de la faim de Alfredo, ont tous les deux été condamnés pour massacre à 20 et 16 ans et 6 mois de prison. Donc c'est des peines qui sont déjà très très lourdes. Il y a actuellement un appel qui n'est pas terminé, donc le procès n'est pas encore arrivé à sa fin. Donc ils sont actuellement... à risque d'être condamné en fait à la perpétuité incompréhensible. Pourquoi? Parce que en cassation, les chefs d'accusation ont été requalifiés de massacre à massacre politique. Et en Italie, il y a des peines planchers pour ce genre de crime. Et donc, il s'agit au minimum d'une condamnation à perpétuité, au maximum d'une condamnation à perpétuité incompressible.
Et juste on peut rappeler la perpétuité incompressible, c'est quelque chose qui est relativement nouveau en fait au 21e siècle. En tout cas en France, il y a eu qu'une dizaine de personnes qui ont été condamnées à ça. Par exemple récemment Salah Abdeslam, et c'est en fait une perpétuité où même il n'y a pas en fait une période de sûreté à partir de laquelle on peut commencer à obtenir des aménagements de peine ou ce genre de choses pour sortir au bout de 30, 40, 50 ans. C'est vraiment l'idée théorique, donc c'est de mourir en prison en fait, tout simplement. En fait c'est une condamnation à mort. Et je ne sais pas en Italie combien de personnes ont été condamnées, mais en fait c'est quelque chose qui en fait, est en train d'apparaître dans les États européens assez récemment et qui commence à être appliqué en fait. Et ça c'est extrêmement grave en fait. C'est pour ça aussi qu'on en parle aujourd'hui. C'est pas que pour parler de la situation de personnes qui sont en grève de la faim, et c'est important d'en parler, mais c'est aussi parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on commence à initier sur tout un ensemble de populations qui vont après être confrontées à ça en fait.
Voilà, donc par exemple, effectivement, ça risque d'être le cas de Alfredo et Anna. Et donc, pour cet appel aura lieu le 5 décembre. On verra bien de quoi, le 5 décembre prochain, on verra bien ce que ça donne. Entre-temps, donc, ce qui s'est passé, c'est que Alfredo, pendant toutes ces années d'incarcération, a continué à contribuer à de nombreuses revues anarchistes. Et apparemment, ça a quand même continue un peu à déranger, le fait qu'il se permette de continuer à ouvrir sa gueule. Et ce que ça fait, c'est que pour essayer de finalement réussir à le faire taire, l'État italien, donc l'administration pénitentiaire italienne, a décidé de le placer en 41 bis en mai dernier. Le 41 bis, c'est quoi ? C'est, parce que c'est effectivement un nom un peu barbare, c'est difficile à comprendre, c'est un article du code pénitentiaire italien. Et c'est un des nombreux articles qui prévoit le placement en isolement. C'est un placement en isolement qui est un petit peu différent par rapport à d'autres. Disons qu'il y en a de différentes formes en Italie. Il y a l'AS2 qui est prévu pour les détenus, par exemple, anarchistes et autres. Il y a l'AS3 qui est le plus souvent réservé aux détenus mafieux. Le 41 bis, c'est un régime punitif, c'est autre chose encore. C'est pas, on pourrait éventuellement faire un parallèle avec les quartiers de haute sécurité en France. C'est pas non plus le quartier d'isolé, c'est pas non plus le mitard. Disons que dans toutes les prisons, il existe des cellules de mitard aussi en Italie. Et là, c'est encore autre chose, c'est quelque chose qui aussi dure un petit peu plus longtemps. On va revenir un peu plus longtemps dessus. En tout cas, je voulais juste revenir un petit peu sur le fait qu'il y a quelques années, il y a déjà eu des camarades qui ont fait une grève de la faim par rapport à leur déplacement, donc effectivement d'une section AS2 à une autre section d'AS2 au sein d'une prison qui était majoritairement en régime 41 bis. Et elles se sont vues appliquer des conditions qui sont très très similaires à celles du 41 bis. Et elles ont fait une grève de la faim d'un mois, il y a maintenant 4 ans de ça, qui a abouti à la fermeture de la section dans laquelle elles se trouvaient.
Mais donc, même s'il n'y a pas des parallèles toujours qui peuvent être tracés avec la France, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, le 41 bis, mais aussi le régime AS2, le principe même, c'est la prison dans la prison, c'est-à-dire en fait une volonté de punir les prisonniers quand en fait on veut les punir de ce qu'ils font aussi à l'intérieur, notamment les luttes, et les empêcher en fait de pouvoir continuer à penser. C'est notamment ce que dit souvent Alfredo Cospito. Et en fait, c'est dans cette logique-là, en fait, c'est extrêmement important de lutter contre ces initiatives de l'État, parce qu'en fait, c'est une volonté de créer la prison à la prison. C'est aussi lutter contre la prison à la prison, c'est déjà lutter contre la prison elle-même.
Ok, donc on comprend mieux un peu de quoi il s'agit. Est-ce que ce serait possible d'expliquer au regard de l'État italien quel est l'objectif de la mise en place du 41 bis ? Est-ce qu'il y a une logique particulière derrière tout ça ?
Oui, bah déjà bonjour, bonsoir à tous et à toutes, et à, particulièrement à toutes les personnes enfermées privées de la liberté. Déjà, l'article 41 bis du code pénitentiaire en Italie a une longue histoire et a subi quand même beaucoup d'évolutions historiques dans les dernières 30 ans. Et il est introduit avec une loi en 1986. Mais c'est qu'à partir des années 90 qu'il est concrètement appliqué, en particulier après ce que l'État italien définit l'émergence de la criminalité organisée mafieuse. Mais c'est que à partir de 2002, bah du coup, c'est, comment dire, déjà, c'est un article que c'est un régime de détention qui est né pour répondre à une émergence que l'État voyait dans l'action de la criminalité organisée, et du coup, c'était visé surtout pour mettre en détention un régime d'isolement de 41 bis des personnes condamnées pour des délits mafieux. Mais à partir de 2002, il est appliqué aussi, l'article peut être appliqué aussi sur des personnes condamnées, mais pas que condamnées, parce que c'est possible aussi d'être soumis au régime de 41 bis, même quand on n'a pas encore eu des condamnations définitives. Du coup, ça a été élargi aussi pour les personnes condamnées ou pas pour des délits de terrorisme. Et ce qui est intéressant peut-être de ce côté historique à retenir, c'est que il naît comme un article, comment dire, comme un règlement, un article émergentiel. Du coup, le Parlement italien devait réapprouver la loi de 3 ans en 3 ans, mais justement à partir de 2002, il est devenu une loi ordinaire. Il n'y a pas besoin de la réapprouver, c'est définitif, quoi. Du coup, c'est on pourrait dire un régime de torture totalement légalisé. Je parle de torture pour une raison spécifique, comme ça j'ai répondu à la question sur c'est quoi la logique. En fait, les personnes qui sont soumises, les détenus soumis au régime auquel il est appliqué le régime de 41 bis, ce sont justement des prisonniers condamnés ou accusés de délits mafieux et terroristes, et qui sont. Et l'idée, c'est de les mettre en régime de 41 bis pour couper tout lien entre ces détenus-là et l'organisation criminelle à l'extérieur de la prison avec laquelle ils seraient encore en lien, justement. Et pour faire ça, ce que la justice retient nécessaire, la logique derrière le 41 bis, c'est de mettre en place des techniques de privation sensorielle et de torture psychologique et de privation totale pour justement pousser le détenu à collaborer avec la justice, à balancer quelqu'un, parce que c'est ça le facteur qui est retenu comme le facteur nécessaire pour couper le lien avec la preuve du fait que le lien a été coupé. Et du coup, c'est pas possible de sortir du 41 bis sans collaborer avec la justice. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, il y a 20 prisonniers en Italie qui sont à régime de 41 bis de plus que 20 ans, et en total plus que 700 prisonniers dans toute l'Italie qui sont soumis au régime de 41 bis.
Dans 13 prisons qui permettent ce régime-là.
Voilà.
Peut-être qu'on peut dire concrètement aussi à quoi ça correspond en fait ce 41 bis, c'est-à-dire le principe, c'est la privation de lien avec l'extérieur pour pousser les gens à collaborer avec la justice. Mais en fait aussi, c'est en fait des conditions réelles, c'est-à-dire les gens, en fait, concrètement, doivent se soumettre à un régime extrêmement violent au quotidien, et ça les détruit, en fait, moralement et physiquement. Est-ce que tu peux revenir un peu aussi là-dessus, en fait?
Oui. Déjà, moi, j'aimerais bien souligner le fait que, du coup, l'idée vraiment à la base, c'est de mettre le prisonnier dans une condition de silence total, de le priver de toute forme de parole. Et ça s'applique par des... Comment dire? Ça arrive par... C'est possible à travers des conditions d'application du régime de 41 bis concrète. Et... Mais aussi, justement, tu peux parler que si tu parles avec la justice, c'est ça un peu l'idée. Pour le reste, il faut qu'il y ait un silence de tombe. Et du coup, par exemple, je laisse la parole juste pour rentrer un peu dans les détails de ce régime de détention pour voir comment ça s'applique, ce silence de tombe. Comment ça, c'est possible?
Du coup, quand on parle de 41 bis, du coup, il faut imaginer une cellule d'environ 2 mètres sur 3, toutes les cellules sont individuelles. Hein. On peut partager. Il y a aucune personne qui peut partager sa cellule avec une autre personne. On parle de deux heures de promenade par jour qui sont avec seulement trois autres détenus. Évidemment, pas au choix du détenu, mais choisi par l'administration pénitentiaire pour une durée de 6 mois. Et une durée de 6 mois que l'administration pénitentiaire peut réduire à sa guise si des liens trop serrés se créent entre les détenus. Donc aucun problème effectivement à changer le groupe et à le mettre avec des personnes avec qui ils s'entendent éventuellement un peu moins bien. On parle d'une cellule dans laquelle il y a le moins de mobilier possible évidemment. Donc un tabouret, une chaise, une télé avec du plexiglas devant. On parle d'environ 2 ou 3 couches de verre qui séparent la cellule de l'extérieur, et avec en plus évidemment les barreaux. La fenêtre est en général placée en hauteur, ce qui empêche de voir quoi que ce soit. Si on a la chance d'avoir des cellules qui sont en hauteur, là quand on parle de la cellule d'Alfredo, lui il se trouve au sous-sol, donc bon courage pour voir quoi que ce soit. Alors voilà, à l'intérieur on peut pas avoir plus de 9 vêtements. Si on veut changer de vêtements, il faut qu'on demande au maton d'ouvrir la porte et de pouvoir les prendre dans la petite armoire qui se trouve à l'extérieur de la cellule. On a le droit d'avoir maximum 4 livres. Pareil, il faut demander pour pouvoir changer. Les cellules sont organisées et faites de manière à ce que, même en criant, on puisse pas communiquer avec les autres détenus. Les détenus, évidemment, n'ont pas le droit de dire bonjour quand ils croisent d'autres détenus dans les couloirs. Interdiction formelle de communiquer avec les personnes qui n'ont pas été décidées par l'administration pénitentiaire pour faire ensemble les parloirs. C'est pas la liste infinie, malheureusement, des tortures que l'administration pénitentiaire a réussi à inventer pour tout ça.
Il y a aussi un lien important, en fait, le lien avec l'extérieur, il est complètement coupé. Et ce que tu disais là sur la limite des vêtements, des promenades et des discussions à l'intérieur, c'est la même chose aussi ce qui va se passer à l'extérieur. Je ne sais pas si vous pouvez revenir, notamment sur les parloirs, c'est un truc extrêmement hardcore qui se met en place, quoi.
Oui, par exemple, justement, le détenu a le droit à un parloir par mois avec ses proches. Et si le parloir prévu le mois n'a pas lieu, le détenu et les proches ont le droit à effectuer un parloir par téléphone, à effectuer un appel téléphonique de 10 minutes maximum. Et pour l'effectuer, le proche à l'extérieur doit se rendre dans le commissariat ou dans la prison la plus proche pour effectuer l'appel. Et les parloirs en plus sont audio enregistrés. Vidéo enregistrée.
Et pour les parloirs, ceux qui sont en physique, c'est en fait avec une vitre en plexi. Ouais. Et ça, si c'est pas un régime punitif, je sais pas ce que c'est, parce qu'en fait, les parloirs une fois par mois où on peut même pas en fait faire juste une accolade à ses proches, c'est de la torture. Quand on est condamné à perpétuité incompressible, faut voir ce que ça signifie en fait.
Je pense qu'il y a encore quelques trucs qui sont possibles d'être ajoutés aussi pour donner un cadre un peu complet. C'est notamment par exemple le fait qu'il y a le droit que aux chaînes de télévision publiques. Donc ça fait, alors que c'est quand même en prison une espèce de fenêtre vers l'extérieur, la prison qui est la télé qui est pas tout à fait négligeable, et donc là un numéro réduit de chaînes de télévision qu'il est possible de regarder. On peut préciser aussi que l'endroit sur la télévision où on peut lire l'heure d'habitude est flouté. De manière à ce que effectivement on puisse aussi perdre, il y a aussi une question de perdre la perception du temps qui passe. On parlait de l'isolement des sens.
Ça c'est clairement de la torture. Enfin vraiment c'est quelque chose qui est régulièrement pointé du doigt par toutes les organisations humanitaires du monde entier. Dès que en fait il y a de la privation de liberté avec l'impossibilité de suivre le jour, la nuit et les horaires, c'est de la torture, surtout sur le temps long en fait.
Mais justement c'est vraiment la technique scientifique derrière, celle de la privation sensorielle.
Et de ne plus avoir de repères temporels quand on est condamné à des longues peines ou à des peines interminables ou des prisons à vie, ça c'est forcément ça affecte la santé physique quoi, et psychique pardon.
Et du coup sur l'isolement on peut rajouter encore quelques trucs. Bon, en France c'est pas quelque chose qui fait très bizarre, mais effectivement en Italie c'est pas si fréquent, donc le courrier est entièrement lu, et notamment il y a quand même une chose qui est un peu spécifique, c'est que le courrier avec l'avocat est lu aussi, et aussi l'avocat a l'interdiction formelle de parler de ce, de, des conditions de détention de son client sous peine de condamnation pénale, en fait. Donc c'est...
Ce qui veut dire, par exemple, concrètement, qu'en fait, une famille qui ne peut pas se déplacer à l'autre bout de l'Italie, par exemple en Sardaigne, parce qu'en fait, il faut aller prendre l'avion, etc., elle ne peut pas faire de parloir. Elle doit attendre 6 mois avant de pouvoir faire un appel téléphonique de 10 minutes, ce qui fait qu'en fait, pendant 6 mois, elle n'a pas d'informations et elle ne peut pas demander à l'avocat juste pour savoir si la personne va bien. C'est-à-dire que pendant 6 mois, en fait, la famille ne va pas avoir... dis-moi si je me trompe, mais en tout cas...
Je dois dire que je suis pas sûre de savoir s'il a le droit de parler avec la famille ou si, en tout cas, il a pas le droit de dire publiquement. Okay. Je sais pas s'il y a pas cette petite différence.
Mais ce qui fait que il faut forcément passer par l'avocat pour avoir des informations privées et que ça devient très compliqué, en fait, pour avoir plein d'informations quand on est quelqu'un qui le connaisse.
Et que les avocats, qui souvent ont des moyens de diffusion que les détenus ou leur famille n'ont pas, n'ont pas la possibilité de parler des conditions de détention et donc de ce qui se passe à l'intérieur du 41 bis. C'est quand même le tabou total, c'est quelque chose qui ne sort jamais. On n'en parle absolument jamais.
Et juste une question vite, parce que tu as dit que, par exemple, les visites, c'est audio et aussi visio, c'est une caméra. Est-ce que c'est la caméra aussi dans la cellule? Non.
Non.
Ok.
Non.
Par contre, les procès, tu peux raconter comment ça se passe?
Oui, justement, les procès sont en visioconférence. La personne placée au 41 bis ne sort jamais, jamais, jamais du 41 bis, même physiquement, pas que, comment dire, juridiquement. Et il ne sort jamais de la prison. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En général, les procès en visioconférence, ça veut dire que... Déjà, la vue sur le procès pour le détenu est totalement réduite et ça réduit la participation au procès. Mais en plus, le droit de parler ou pas est décidé par un bouton que le juge sur lequel le juge peut appuyer tout le temps quand il veut pour couper la parole. Et c'est exactement, par exemple, ce qui s'est passé pour Alfredo, parce que quand il a... essayer d'annoncer les raisons de sa grève de la faim le 20 octobre pendant une audience, justement, le juge a coupé tout de suite sa parole et du coup il n'a pas pu faire sa déclaration.
On va arriver bientôt à la fin de l'émission. Je pense qu'il y a un dernier truc dans les conditions de détention dont on n'a pas parlé qui est extrêmement important, c'est la question des gommes. Est-ce que tu peux revenir sur ce que c'est les gommes?
Les gommes sont une équipe spéciale de la police pénitentiaire qui est née pour être les matons qui contrôlent les détenus en 41 bis. Mais en fait, il s'agit des matons qui interviennent, d'équipes spéciales qui interviennent dans les cas de révolte dans les prisons. Et du coup, ils sont les responsables de beaucoup de massacres et tortures qui ont été mises en place dans plusieurs révoltes, dans l'histoire des révoltes des prisons en Italie. Je fais juste l'exemple de la révolte à la prison de San Sebastiano à Sassari, justement en 2000, où les gommes étaient justement les responsables du massacre qui a été fait contre les prisonniers et les proches aussi à l'extérieur. Mais ils sont aussi, ils sont très connus en Italie pour avoir été aussi des responsables des massacres et tortures qui ont été mises en place contre les gens arrêtés au G8 de Gênes en 2001 dans un commissariat qui s'appelait commissariat de Bolzaneto.
C'est un peu comme avoir les hérisses comme matons, quoi.
Ouais.
Et aussi dans les révoltes pendant le Covid en 2020 en Italie.
Ouais. Oui, il y avait eu plein de personnes qui avaient été tuées, une quinzaine, c'est ça?
Ouais, 16.
16. On va arriver à la fin de l'émission. Peut-être qu'on voulait quand même laisser un dernier mot un peu plus joyeux sur, en fait, en lien avec cette grève de la faim, il y a des personnes en fait qui se mobilisent depuis plusieurs semaines.
Mais en fait, c'est pas la première fois qu'il y a des personnes qui font des petits actes de résistance contre le 41 bis. La plupart du temps, c'est des choses qui sont très très sévèrement punies par la justice italienne. Il y a l'exemple de Nadia Lioce qui, il y a quelques années, avait eu l'impudence d'utiliser une bouteille d'eau contre les barreaux de sa cellule pendant 20 minutes, qui a eu des années de procès suite à ça. Et donc là, effectivement, il y a Alfredo qui est en grève de la faim depuis maintenant un mois. Et c'est effectivement là, on peut dire un bon exemple de solidarité, vu qu'il y a énormément de choses qui se passent dehors pour soutenir sa grève de la faim. Alfredo, il est très très déterminé. Il a dit que qu'il allait sortir du 41 bis, quoi, ou vivant ou pas. Voilà. Donc il est très très déterminé. Il y a un bel élan de solidarité qui se passe dehors. Je pense qu'on peut citer quelques actions qui ont eu lieu. Il y a eu l'occupation de Amnesty International à Rome, une occupation de la grue des travaux du théâtre de la Scala à Milan. Il y a des camions de collabos du système carcéral italien qui ont été brûlés. Il y a eu l'occupation de centres culturels italiens à Berlin et à Bruxelles. Il y a eu de nombreuses manifestations, des rassemblements devant des prisons, notamment des prisons 41 bis, des banderoles, des affiches un peu partout en Europe, mais aussi dans le reste du monde. Et voilà, on espère que ça va continuer, parce que là, ça fait quand même 30 jours qu'il est en grève de la faim aujourd'hui. Et voilà, il faut continuer à lui porter solidarité.
Des occupations aussi, des sièges des... comment dire, organes qui diffusent l'information en Italie, de la télé et tout, ce qui fait qu'on en parle.
On va devoir arrêter, mais du coup, si vous voulez plus d'informations, il va y avoir... j'ai pas trop les infos, vas-y.
Ah, d'accord. Il va y avoir une réunion d'information, effectivement, mardi soir à la Salle Gueule à 18h. On rentrera un petit peu plus dans tous les détails qu'on n'a pas pu aborder ce soir. Je voulais juste ajouter que, en fait, toutes ces actions qui ont eu lieu, elles sont pas vaines. Et de fait, il est en train de se passer, qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger en Italie. Notamment, il y a quand même l'appel de sa mise, du placement d'Alfredo en 41 bis qui a été fixé au 1er décembre. Et il y a quelque chose qui bouge, c'est-à-dire que ça commence à en parler de plus en plus dans les médias. La gauche italienne semble un tout petit peu se réveiller. Je ne sais pas si ça va avoir un grand effet, mais pour une fois, il se passe enfin quelque chose. On parle enfin de toutes ces personnes qui sont enterrées vivantes à l'intérieur des prisons 41 bis. Et voilà, je pense que ça donne un petit peu d'espoir.
Yes.
Et envie de continuer.
Bah super, sur cette fin de mission en bonne note. Juste avant de nous quitter, donc on se retrouve à 19h30. Dimanche prochain, comme chaque dimanche. Et pour la copine qui nous a envoyé une lettre, on l'a bien reçue, donc ta lettre du 11 novembre dernier. On la lira à l'émission la semaine prochaine. Et d'ici là, bon courage à toutes les personnes qui sont incarcérées, et donc en particulier aux copines Obomètres qui nous écoutent.
Voilà, vous êtes de retour sur Carapatage, l'émission Contre toutes les cages. On vient d'écouter une émission de La Courte Échelle, une émission nouvelle émission anticarcérale de Marseille. C'est une émission qui date du 6 novembre et donc voilà, on a fait la mise à jour avant, mais donc l'appel pour Alfredo Cospito a été rejeté. Ça n'empêche pas que voilà, toutes les actions de solidarité ont tout leur sens et que la lutte continue pour qu'il sorte du 41 bis et pour la fin de ce régime. Et on l'a dit aussi avant d'écouter cette émission, mais on peut retrouver toutes les infos sur le blog luttercontrele41bis.noblogs.org et puis sur notre blog carapatage.noblogs.org, vous pourrez retrouver aussi le lien vers cette émission qu'on vient d'écouter et d'autres liens. On va écouter une musique.
Ouais. On va écouter une musique du groupe The Coup. Qui s'appelle The Favorite Mutiny. Alors je vais meubler un peu en attendant la musique se lance. Bonne écoute, à tout à l'heure.
For your just desserts, it's not just the words. Some of y'all heads up in the cloud, I'ma bring y'all back the earth is black back to burn. Bullshit y'all talking about, out your mouth I'm not concerned, cause y'all got to learn. It's y'all turn like Detroit Red when his head had an ultra perm. The long walk I burn your bare heels so throw on your boots. The game camouflage like army suits, but I can see it more clear cause I came with the coupe in here. Ring the alarm, inform the troops, send them out into the world, go to war on the flu. Eye to eye with the enemy you sworn to shoot. Now I'm coming at your neck sick of hearing something wrong with me. Motherfucker, something wrong with you. With a cheek just way too smart to question. The enemy, the brothers of a dark complexion. The governments of the world is shark infested. They have their own weaponry like Sharpton Heston, man. Look, it gets low, man. Low, now I'm talking about. Get it. My favorite mutiny. Yeah, is a mic on. With you, your logic does not compute. Come on, it's my favorite mutiny. Death to the pigs is my basic statement. I spit street stories till I taste the pavement. Trying to stay out the pen where we face enslavement. Had a foolproof hustle till they trace the payments. I was gripping my palm around some shitty rum. Trying to find Psalm number 151. To forget what I'm owed as I clutch the Komodo red. Put down the bottle and come get the gun. Let's get off the chain like Kunta Kinte with a Mac-10. They want us gone like a dollar in a crack den. Steadily subtracting seeds and stems. Mind cloudy through the wheeze and phlegm. Numbing my brain off of that and the Jesus hymns. If we waiting for the time to fight these is them, telling us to relax while they ease it in. We're getting greased again. The truth I write is so cold it'll freeze my pen. I boots Riley, it's a pleasure to meet you. Never let they punk ass ever defeat you. They got us on the corner wearing pleather and see-through. All y'all's gold mines, they wanna deplete you. I ain't just finna rap on the track, I'm finna clap on the back. And it's been stacking it at 500 years before Iceberg ever leaned back in the lack. Before they told Rosa Black in the back. Before the CIA told Ricky Ross to put crack in the sack. And Gil Scott traded rapping for smack. This beat alone should get platinum plaques. I'd rather see a million of us ecstatic to scrap. Cause if we bapping them back, we automatically stack. Check it out. I ain't rocking with you, so what you gonna do? It's my favorite mutiny. I ain't rocking with you, your logic does not compute. My favorite view, yeah.
This the cat like Chew and C. Reboots me, activating the community. Up in the bay like Huey P. It's like a free, it remind me of the BK. This love for me, but the beast got it twisted, I'll untangle it. The black mind intertwined like the ropes they used to hang us with. This my favorite shit, I came in the game with a new way to spit. They got your questionnaire, who you banging with? Take it back to M-Hotep, go a step deeper like a poor righteous teacher with holy intellect. Killer flow for all my real niggas left. But then for the failure to jig a boo that's been a death. Once again, you can feel hip-hop underground, still about my guap. Gangsta like fuck the cops. Tell him Kweli, revolutionary MC, and that ain't about to stop.
I ain't rockin' with you, so what you gon' do? It's my favorite mutiny. I ain't rockin' with you, your logic does not go. My favorite mutiny.
Vous êtes de retour dans Carapatage, en direct tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h. Et là, on se retrouve pour écouter une chronique que des copines nous ont envoyée, une chronique autour d'un film qui s'appelle Great Freedom, sorti en 2021, qui parle d'une... une personne homosexuelle qui a fait plusieurs fois de la tôle entre 1945 et 1969 en Allemagne de l'Ouest parce que l'homosexualité était interdite. Et du coup, la première fois en 1945, il est directement transféré dans un camp de concentration nazi. et après directement à la tôle. Donc voilà, elles vont vous en parler et elles vont vous en dire plus.
Salut, on voulait vous parler d'un film qui nous a beaucoup plu. Il est sorti en 2021 et il a été réalisé par Sébastien Meyze. Il s'appelle Great Freedom. On pourrait traduire ça par « Grande liberté ». Et le personnage principal, Hans Hoffman, est particulièrement bien interprété par l'acteur Franz Rogowski. Le film commence en 1968. Hans est condamné à 2 ans de prison ferme, après avoir été filmé dans une pissotière, aussi appelée « tasse » en France dans les milieux homosexuels de ces années-là. C'est des lieux de rencontre entre PD. La vidéo est filmée par une caméra cachée par la police dans des toilettes publiques. Elle le montre ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes et il est alors accusé d'avoir touché le pénis d'un autre homme, de masturbation mutuelle, de fellation active et passive et de coït anal. On comprend ensuite assez rapidement qu'il a déjà été incarcéré en 1945 au sortir d'un camp de concentration nazi où il a été placé pour son homosexualité. À ce moment-là, il lui reste 4 mois à faire a priori, puisqu'il a été condamné à 18 mois et qu'il en a déjà passé 14 dans le camp. Cela est possible car l'homosexualité est encore interdite en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. C'est le paragraphe 175 du Code pénal allemand qui criminalise l'homosexualité. Il a été créé en 1871, puis sous le régime nazi, en 1935, il est rendu plus sévère. À ce moment-là, les actes homosexuels passent de délit à crime. Ils sont punissables de 5 ans d'emprisonnement maximum. Ce n'est plus seulement les actes forcés, mais aussi consentis qui sont condamnés. Même après la Seconde Guerre mondiale, la loi reste la même jusqu'en 1969. À ce moment-là, elle est allégée et elle redevient ce qu'elle était avant 1935. Elle sera finalement abrogée en 1994. Entre 1945 et 1994, 50 000 personnes sont condamnées au nom du paragraphe 175. Ces personnes sont définies comme des hommes homosexuels par la justice, mais on ne connaît pas les proportions d'hommes bisexuels ou de personnes transféminines. Les relations lesbiennes ne sont pas du tout mentionnées dans le texte de loi. Et donc, à partir de 1969, il y a de moins en moins de condamnations, jusqu'en 1994.
Le personnage de Hans, qui est le personnage principal, on l'a trouvé super touchant et attachant. Il n'a jamais honte de qui il est et d'être homo. Il vit plein de trucs durs, mais il ne se laisse jamais abattre. Quasiment tout le film se passe en tôle. Et on le voit tout au fur et à mesure du film résister de plein de façons différentes. Il cherche toujours des manières au sein de la prison pour vivre ce qu'il a envie. Et notamment, il a plein d'astuces pour vivre des trucs amoureux et sexuels avec d'autres gars. Et aussi plus largement, pour déjouer les règles de la tôle qui interdisent de fumer, du shit ou de se tatouer par exemple. Souvent, ces astuces, elles sont discrètes et la plupart du temps, ça marche. Mais il y a aussi des moments où il se fait choper par les matons et ça fait qu'il est envoyé au cachot. Et aussi, à un moment, il réagit à l'homophobie d'un autre prisonnier, il se bat et il est envoyé au cachot. Le cachot, c'est vraiment montré comme un espace très, très difficile. C'est une cellule vide, sans lumière, sans bouffe, sans eau. Il est mis là en caleçon. On ne sait jamais pour combien de temps il y reste, mais il a l'air d'y rester quand même un sacré temps. Et Hans, il n'est pas montré comme un héros. On a l'impression qu'il n'a rien à prouver à personne. Il fait tout ça parce qu'il en a envie. Et c'est aussi ça qui le rend aussi inspirant et attachant.
Ce film nous parle aussi de la difficulté d'être pédé en tôle. Il montre l'homophobie des matons et des co-détenus. Hans est très isolé. Personne ne veut être vu avec lui et tout le monde sait pourquoi il est enfermé, parce que c'est écrit sur la porte de sa cellule. Du coup, il ne peut pas choisir d'être out ou pas. Il a commis une double transgression, celle de la loi du paragraphe 175 et celle de la morale patriarcale. Il vit alors une double condamnation.
Nous, un truc qui nous a plu, c'est que c'était pas un film déprimant. Bon, moi j'ai quand même beaucoup pleuré, alors je conseille de ne pas le regarder seul. Mais malgré tous les trucs trash qui se passent, la tôle réussit pas à le détruire. Il construit quand même des belles relations. C'est pas un de ces nombreux films où les queers finissent toujours par se suicider, s'entre-déchirer, finir à l'hôpital ou quoi. C'est un film qui donne l'impression que c'est pas possible d'être homo et d'être heureux. Moi, j'avoue, ces films, j'en ai un peu marre. Ils me font pas me sentir très bien. Mais là, moi, je trouve ça clair que le problème, c'est la tôle et l'homophobie, et c'est pas l'homosexualité. Et aussi, la prison s'est montrée comme une torture pour tout le monde, pas que pour les homos. Bon, c'est sûr, j'étais déjà convaincue. Mais moi, je trouve que ce film, il donne encore plus envie de détruire toutes les prisons.
Voilà, on est de retour dans l'émission Carapatage. On vient d'écouter une chronique qui, j'espère, vous a plu autour d'un film qui s'appelle Great Freedom. Et ben, on va se quitter pour ce soir avec une petite musique de
She Diamond.
I am her. Et on vous salue et plein de courage à toutes celles et ceux qui sont à l'intérieur. Et on se retrouve pour une prochaine émission le 18 janvier. Une émission sur un thème qui sera révélé le 18 janvier. Bonne soirée.
Salut à tous, bon courage à ceux qui sont à l'intérieur.
If you had to wear my shoes, you'd probably take them off too. And problems that I go through. Sometimes I can't sleep at night. If I hide my face, heaven would be, and it wouldn't be the worst thing that I ever did. It's a hell of a world that we're living in. James 2:10, a sin is a sin. Don't look at me immediately and whisper behind my back, thinking I'm naive. It's my Sullivan hospitality. Tolerates more abuse than even I can believe. There's an outcast in everybody's life, and I am her. There's a dark cloud in everybody's sunlight, and I am her. There's a shadow in everybody's front door, and I am her. Oh, you know I am her. Your ignorance leaves a hell of a stench. The aroma lingers on generations I've known. And it's ironic, the smarter we get, the less we understand about the simplest shit. I am Shane, she is me. We get down with our bad selves figuratively. Don't care too much what other people say. I get along swell by my goddamn self. Never ask for no one's philosophy. It's obvious the world to me. Yeah, yeah.
Carapatage, une émission contre toutes les cages.
Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle.
à travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire, en racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu.
Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h,
sur Radio Libertaire 89.4 FM.
Carapatage contre toutes les cages.